Boomerang avec la comédienne Michèle Bernier ce matin, c'est parti. Je me disais, c'est fou comme on peut se faire avoir par une image en noir et blanc. Je suppose qu'on voit un peu moins bien sans couleur, ou alors que quand les couleurs sont passées, quand l'image est sépia, ça doit être pour ça. Parce qu'objectivement, je suis désolé, ça a l'air séduisant comme ça, mais c'était pas mieux avant. D'ailleurs, je me dis toujours en ce moment qu'il faut décidément être assez faible en histoire ou pas avoir beaucoup de mémoire pour célébrer le bon vieux temps. Il s'agit pas de dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais je veux dire, en termes de liberté, de connaissance, d'invention, de progrès au sens scientifique, ce serait fou de dire que c'était mieux avant en termes d'espérance de vie aussi, qui a quand même plus que doublé au XXe siècle. On pourrait d'ailleurs rétorquer aux adeptes du bon vieux temps, qui souvent, on va pas se mentir, sont plutôt jeunes, c'est un effet du vieillissement, qu'en l'occurrence, s'ils avaient vécu au bon vieux temps, ils seraient sans doute morts. Donc c'était pas mieux avant. Et on peut leur dire aussi, c'est amusant, qu'ils auraient sans doute eu le même discours, parce qu'on oublie souvent que cette phrase, c'était mieux avant, elle est d'une étonnante banalité. On la trouve déjà dans l'Antiquité. Je pense à cette citation de Caton au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui se lamentait en disant, est-ce ma faute si nous n'en sommes plus à l'âge d'or, il m'aurait mieux valu naître alors que la nature était plus clémente. Ô sort cruel qui m'a fait venir trop tard, fils d'une race déshéritée. En l'occurrence, c'était pas mieux avant, je suis désolé.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui n'est pas une adepte du c'était mieux avant. Comédienne, humoriste sur les planches, au cinéma, la télévision, du petit théâtre de Bouvard, à la stagiaire sur France 3, en passant par Existe en trois tailles, Le démon de midi, Pas une ride. Son spectacle Vive demain est en tournée dans toute la France, avec sa gouaille inimitable, son sens de l'autodérision. Surtout, elle s'interroge sur le temps qui passe tout en s'adonnant à des intermèdes musicaux qui sont, somme toute, assez audacieux. Bonjour Michèle Bernier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin.
Merci.
Qu'est-ce qui était mieux avant? Aidez-moi, parce que...
Moi.
Vous le dites dans le spectacle, mais moi je vous trouve très bien aujourd'hui.
Mais oui, mais moi je me trouvais mieux quand j'avais 20 ans. Mais non, je crois que c'était mieux avant, ça fait partie de la nostalgie de ce qu'on a pu être, c'est-à-dire insouciant, tout était permis, on était les pionniers de nos propres vies, donc vraiment pas d'interdit, tout était possible.
Mais en même temps, c'est intéressant cette rengaine du c'était mieux avant qu'on entend beaucoup en ce moment, surtout dans certains camps. Qu'est-ce que ça traduit sur notre époque? Qu'est-ce que ça dit?
J'ai l'impression que c'est parce qu'on ne sait pas quoi faire avec le futur.
Ouais.
Et que tous les gens qui ne savent pas quoi faire avec le futur se disent « Oui, mais quand même, avant, on avait ci, on avait ça. » Et ça, c'est grave, parce que moi, je trouve que c'est des freins, en fait, à l'évolution, à la réflexion. C'est-à-dire que se dire tout le temps « C'était mieux avant », ça veut dire quoi? Faut revenir au noir et blanc? Faut revenir à l'invention de la roue? Je sais pas, je comprends pas le truc.
Qu'est-ce que vous en faites, vous du
en
futur?
Faites quoi? C'est très bizarre. Comme un futur qui serait hier. Quand même curieux.
L'avenir vous fait pas peur?
L'avenir me fait peur, mais normalement, comme il a fait peur à toutes les générations. Il fait peur parce qu'on se dit, voilà, qu'est-ce que je vais devenir? Parce que je vieillis et que j'espère rester en bonne santé, continuer à déconner, à faire ce que j'aime, et que mes enfants et mes petits-enfants soient heureux.
Mais c'est la question que j'allais vous poser. Quand vous avez peur, Michèle Bernier, qu'est-ce que vous faites, vous?
Quand j'ai peur, je me terre sous ma couette.
Ou vous riez, j'ai l'impression.
Je ris beaucoup, oui.
Ça, c'est un parti pris. Dans quelle mesure est-ce que l'humour, le vôtre particulièrement, se nourrit de tout ce qu'il peut y avoir de désagréable dans une vie?
Mais parce que je crois que j'ai été élevée comme ça, avec mon papa, professeur Choron, et mes tontons, Cavana, Volinsky, Rezer. C'est de voir toujours la vie dans un autre prisme. C'était pas celui qu'on vous impose, mais celui du doute et de la, comment, du recul par rapport aux choses. Jamais se lancer, jamais être un mouton, jamais se dire, oui, c'est ça qu'il faut faire. Et puis, un quart d'heure après, on vous dit, bah non, en fait, compte, fallait pas faire ça. Ah bon, d'accord. Donc, non, c'est une manière de regarder les choses. C'est un regard différent, c'est ce que permet l'humour, hein, c'est pratique.
Y compris voilà. Sur l'âge, qui est une grande préoccupation, évidemment, et pour tout le monde, vous en parlez beaucoup dans vos seuls en scène d'ailleurs, dans toute votre œuvre, Michèle Bernier, quelle préoccupation est-ce que c'est pour vous, l'âge?
C'est l'âge, en fait, c'est l'âge que les autres vous donnent, en fait, parce que moi, je me dis, ok, j'ai 65 ans aujourd'hui, mais... Bon, j'ai l'impression que je les ai pas, quoi. Enfin, à part deux, trois machins que je peux plus faire, mais bon, c'est pas très grave. Mais c'est les gens qui aiment vous mettre dans des cases, dans le spectacle. D'ailleurs, je le dis, à un moment, à 60 ans, on devient comme, on entre dans un no man's land.
Mais vous dites que les femmes sont transparentes.
Oui, on devient transparente. On n'intéresse plus beaucoup on n'intéresse plus les hommes si on est célibataire, parce qu'ils préfèrent les plus jeunes. On est trop jeune on est trop vieille pour acheter un appartement à crédit et est trop jeune pour vendre le sien en viager. Donc c'est vrai qu'on est dans un truc un peu, je veux dire, on vous veut d'un côté, puis de l'autre côté on vous veut pas.
Oui, mais vous,
donc, c'est bizarre.
Vous pouvez jamais être transparente, vous êtes partout,
oui,
à la télé,
mais,
sur scène, sur les.
Oui, mais la transparence, je la ressens d'une autre manière. Mais c'est surtout, moi, j'aime bien regarder mes contemporaines. Et puis c'est vrai que ce spectacle, et comme tous les spectacles, je l'ai coécrit avec Marie-Pascale Ostérite. On est du même âge toutes les deux. Et c'est vrai que ce sont des réflexions qu'on a de temps en temps où on se dit, en fait, il y a un moment, on n'existe plus, quoi. On est un espèce de truc bizarre dans la société. Et puis, hop, ça revient un peu plus tard. Dès qu'on devient, voilà, 75, on va bientôt partir chez Roque et Claire. Donc, on fait un peu plus attention à nous parce qu'il y a des héritages, tout ça. Mais avant.
Qu'est-ce qu'on gagne avec l'âge?
Oh là là, j'en sais rien. Moi, je trouve qu'on gagne pas grand-chose.
Peut-être que l'humour se bonifie avec le temps.
Moi, j'ai l'impression que peut-être l'humour se bonifie. Et je me dis, alors moi, en tant que comédienne, par exemple, j'ai l'impression que maintenant, avec mon âge, on va me proposer de plus en plus de choses très différentes. J'ai l'âge d'être... comme j'ai plus l'âge d'être embrassée par les garçons dans les films, on m'a jamais trop fait faire, d'ailleurs. Je le regrette, ça, c'est vraiment... c'est dommage.
C'est une des raisons pour lesquelles on fait ce métier.
Voilà, quand même, c'est pour embrasser les garçons. Et enfin, bon... et maintenant, on va me proposer des rôles, voilà, plus différents, parce que je commence à avoir l'âge de ça et que c'est moins important.
Je me disais aussi, peut-être qu'avec l'âge, Michel Bernier, on apprend à se libérer un peu du regard des autres. Le regard des autres, ça représente quoi pour la femme et surtout pour la comédienne que vous êtes?
Ben, alors moi, c'est plutôt le regard que je porte sur moi qui est plus dur. Moi, le matin, dans la glace, je me dis, oh mais non, tu n'es pas en train de devenir cette personne avec toutes ces rides et tout ça. Enfin, j'en ai pas beaucoup, mais c'est plus le regard que je porte sur moi, qui n'est pas toujours très sympathique.
Et pourtant, dans le spectacle, vous prenez, j'ai l'impression, le droit de s'assumer tel que l'on est, sans mentir, sans tricher.
Oui. Bien sûr, mais ça m'empêche pas d'avoir aussi des moments un peu d'angoisse. Mais non, parce que moi, j'en ai marre de culpabiliser les gens, en fait, et les femmes en particulier. J'ai l'impression qu'à chaque fois, on fait jamais ce qu'il faut. On ne mange pas ce qu'il faut, on ne prend pas la crème qu'il faut, on ne se baigne pas comme il faut, on n'a pas le maillot qu'il faut, on n'a pas le mec qu'il faut, on n'a pas la nana qu'il faut. Enfin, à chaque fois que j'ouvre un magazine féminin ou autre, d'ailleurs, j'ai l'impression de ne jamais rentrer dans la bonne case. Donc, je pense que tout ça est anxiogène et inquiétant. Moi, j'avais une copine qui me disait, qui était d'origine cambodgienne, et qui me disait, tu sais, moi, depuis l'enfance, quand je regardais les magazines qui me faisaient rêver, il n'y avait jamais une femme comme moi. Il n'y avait jamais une fille asiate. Et donc, je pense qu'on est toujours dans un truc de, vous n'êtes pas la bonne personne, vous n'êtes pas à la bonne place. On va bien vouloir vous vendre tout ce qu'on a envie de vous vendre, c'est-à-dire les cosmétiques, etc., les robes et tout ce qu'on veut, mais vous n'êtes quand même pas assez bien pour être dans nos journaux. Et moi, j'ai la sensation que les femmes, surtout les femmes, effectivement, c'est toujours un peu... vous n'êtes pas exactement comme on voudrait, hein. Ah bon ? Bah mince alors, qu'est-ce que je peux faire à ça ?
Alors qu'est-ce que vous assumez aujourd'hui, Michel Bernier ?
Qu'est-ce que j'assume ? Je sais pas trop. J'assume d'être ce que... Voilà, il y a un truc que j'assume, c'est de me dire, malgré tout, je suis toujours là. Voilà, ça, je suis très très fière de ça, d'avoir fait la carrière que je voulais, d'avoir des amis depuis d'avoir été une actrice assez droite dans ses bottes.
Vous savez qu'il y en a une qui s'assume pas du tout dans cette émission. C'est la culture, évidemment.
Ah, ma mince.
La culture qui ferait bien d'en avoir des complexes en ce qui la concerne. Si vous voulez mon avis, que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 7 décembre? Beaucoup d'informations, Netflix, rien de chill, l'Institut Lumière à Lyon ainsi que la Cinémathèque française à Paris inaugurent aujourd'hui le premier cycle de projection de films Netflix sur grand écran. Un temps envisagé dans les salles d'arrêt d'essai, le projet avait provoqué la colère des syndicats de distributeurs français indépendants lors de son annonce fin octobre. Après compromis, la manifestation organisée dans deux lieux seulement en France propose de voir 9 longs métrages pendant 8 jours, parmi lesquels The Power of the Dog de Jane Campion, lauréate du prix Lumière 2021, qui pour le coup vaut vraiment le coup d'être vu en grand.
Je dis aime et je le sème sur ma planète.
Il dit dit M, Michel, comme un emblème au prix SACEM. Mathieu Chédid fait partie des heureux lauréats des nombreux grands prix SACEM 2021 dévoilés hier, créés pour célébrer le talent et la créativité de ses sociétaires. Ce palmarès annuel qui délivre à moins d'une vingtaine de récompenses chaque année a aussi sacré Youssoupha, l'impératrice Lucinda Yakuza Kassav ou encore la jeune chanteuse Barbara Pravi qui repart avec le prix de la chanson de l'année pour son entraînant. Voilà.
C'est un homme charmant, un très grand photographe, un homme qui aime Toulouse et Toulouse l'aime.
Dieu Zaïd de A à Z, à l'occasion du centenaire de la naissance de l'immense photographe Jean Dieu Zaïd, sa ville natale de Toulouse propose jusqu'au 6 mars une grande rétrospective de son œuvre. Au couvent des Jacobins, l'événement réunit près de 200 clichés de ce maître de la photographie humaniste et compagnon de la route de Robert Doisneau pour retracer 60 ans d'exploration, de voyages, de portraits, l'occasion de voir ou de revoir certaines de ses œuvres iconiques, comme son Dali dans l'eau ou La petite fille au lapin.
J'ai toujours été consciente de la richesse de toutes ces sources que vous pouvez donc lire tous ces livres qui venaient de partout.
Et enfin, l'autrice Ananda Devi a reçu le prix féminin des lycéens pour son roman Le rire des déesses, paru en septembre chez Grasset. Un texte puissant et poétique qui nous précipite dans les quartiers déshérités du nord de l'Inde où vivent une prostituée et sa fille en lutte contre la folie et les violences d'une société patriarcale et inégalitaire. Le jury, composé de 16 classes de lycées de Normandie, de Lille et d'Amiens, remettra son prix à Ananda Devi lors du festival Le goût des autres, organisé au Havre le 13 janvier prochain. Viva Ananda! Comédienne Michel Bernier, invité de Boomerang ce matin pour son seul en scène Vive Demain, dans lequel il m'a pas échappé que vous parliez beaucoup de filiation. Quelle mère est-ce que vous avez eue, vous, puisque vous l'évoquez dans votre spectacle?
J'ai eu une mère extraordinaire, Odile Vaudel, voilà. Une mère amoureuse d'un homme comme mon père. Et une folie amoureuse entre les deux qui était assez démente. Un exemple et en même temps une angoisse quand on a sa propre vie sentimentale où on se dit c'est ce couple-là qui fait rêver, quoi. Cette espèce de fusion permanente. Ils ont tout vécu ensemble, en fait, les tout débuts d'Harakiri. Les tout débuts même avant Harakiri.
C'est d'autant plus fulgurant que c'est une mère qui est partie trop tôt.
Absolument, et qui me manque chaque jour, quoi qu'il arrive. Et mais c'était une mère tellement aimante et avec un rire incroyable. Elle était d'une douceur absolue. Et...
Vous l'entendez encore sourire tout le temps?
Ouais. Ils sont avec moi tout le temps, et tous les deux là.
Vous parlez beaucoup de la dévotion qu'elle avait vis-à-vis de votre père, le fameux professeur Choron, l'un des fondateurs d'Harakiri et de Charlie Hebdo. Quel couple est-ce qu'il formait en fait?
Mais un couple à la fois sulfureux et à la fois par moments extrêmement calme, fou amoureux l'un de l'autre, ça c'est sûr et certain. J'en ai jamais douté une seconde, d'abord pour avoir traversé tout ce qu'ils ont traversé, parce que Harakiri, ça a été quand même beaucoup de procès, beaucoup d'interdictions,
c'est ça,
beaucoup
dans de problèmes de fric. Dans quelle famille est-ce que vous avez eu l'impression de grandir au fond, Michel Bernier? Ça devait quand même être quelque chose.
Mais moi j'étais enfant, donc je me rendais pas bien compte que tout ce qui allait tout ce que ces gens allaient devenir, voilà, dont on parle encore aujourd'hui, des stars je dirais intellectuelles, alors que c'était tous des fils d'ouvriers ou pas loin en tout cas. Non, une enfance où c'est plutôt le regard des autres, hein, c'est toujours un peu pareil, c'est-à-dire que moi j'étais à l'école, j'étais un peu la fille du diable, quoi. Mais moi je me disais pourquoi la fille du diable, je comprenais pas, moi tout ce qui je lisais pas spécialement.
Parce que quelle vision de l'humour est-ce qu'il portait?
Absolu. Rire de tout, absolument de tout, sans avoir peur de rien.
C'est quelque chose qui vous ont appris, ça?
Oui, vraiment.
À jamais avoir peur.
Jamais avoir peur. Y aller. Parce que aujourd'hui, quand on dit oui, quand même, on peut plus rire de tout. Je me rappelle toujours Cavana qui disait, mais à l'époque, on ne pouvait pas non plus et on pouvait encore moins. Et on l'a fait quand même. Parce que,
oui, cette phrase est inepte, en fait.
Elle est inepte parce que, en plus, c'était une France du général de Gaulle. C'était une France extrêmement conservatrice, extrêmement catholique.
Oui, mais Michel, c'était mieux avant.
Et faire Harakiri dans ces conditions-là, il fallait y aller. Hein.
On vous a appris aussi à rire de vous-même, j'ai l'impression. C'est absolument central dans votre humour. Et c'était le cas aussi.
Bah, c'est-à-dire que si on peut pas rigoler de ses bêtises ou de soi-même, alors en ce moment on peut rigoler de rien.
C'est-à-dire que si on rit de tout, on rit de soi aussi.
Ben oui, puis ça veut dire qu'on est quoi, un être suprême qui n'a pas de défauts. Ce serait complètement idiot. Enfin, je sais pas, une dictatrice de moi-même.
Alors au départ, c'était pas vraiment un avenir de comédienne ou d'humoriste que vous vous dirigiez. Ce que vous vouliez devenir, c'était avocate.
Oui.
Cette fibre de justicière, parce que c'est comme ça que vous le présentez. Oui. Comment est-ce que c'est né?
Mais je crois que mon père ayant eu beaucoup de procès dans sa vie. Et puis moi, j'ai un peu aussi commencé à grandir avec Gisèle Halimi, avec des sujets tellement importants que ça me fascinait et que je trouvais cette femme fascinante et que je me disais, si je suis avocate, je serai Gisèle Halimi, il n'y a rien d'autre.
Mais pour défendre votre père, quand même.
Après, je me disais, mon père, il était content que je fasse du droit, d'abord, en se disant, comme ça, j'aurai une avocate gratos et je pourrai avoir plein de procès.
Comment se fait-il que vous soyez resté si peu longtemps en fac de droit? Qu'est-ce qui s'est passé?
Parce que je me suis vite ennuyée sur les bancs de la fac et je me rappelle qu'en plus un prof de droit m'avait dit, bon, j'avais rendu un devoir et il m'avait dit, écoutez, on ne vous demande pas de commenter la loi, on vous demande de l'apprendre. Alors évidemment, ça allait pas. J'ai commencé à dire oui, mais ça, c'est pas normal, c'est quand même bizarre. Pourquoi?
Et sur les bancs des cours de théâtre, alors vous avez rencontré quoi?
J'ai rencontré ma vie. Je suis arrivée, au cours Viriot et je me suis dit, c'est ma maison. J'ai tout de suite su que c'était chez moi. Que j'étais là, que c'était bien.
Vous n'avez jamais déménagé?
Non.
Il vous a dit quoi, votre père, que vous avez arrêté le droit pour faire du théâtre? Duel Furax?
Pas du tout. Il m'a dit une chose merveilleuse. Il m'a dit, écoute, tu n'as pas choisi la facilité, mais tu auras le gîte, le couvert et l'argent de poche, mais tu ne fais que ça. Tu lis, tu apprends, tu apprends, tu apprends, tu apprends.
Il reste quelque chose quand même de la justicière du départ dans votre métier de comédienne?
Oh, j'espère que j'essaye d'être assez une bonne personne, on va dire.
Au fond, pourquoi est-ce que vous donnez de la voix aujourd'hui encore dans l'exercice de votre métier, Michel Bernier?
Ben parce que je trouve que c'est l'endroit où on peut être le plus libre, c'est sur une scène. Donc personne ne vient vous dire attention, la part de marché, attention, on ne fait pas ci, attention, on ne fait pas ça. Là, je suis libre, je fais ce que je veux. Je suis une femme indépendante. Je peux chanter, danser, même si c'est pas comme on voudrait, mais en tout cas, c'est comme moi je le sens. Donc, c'est ma liberté.
Et pour qui est-ce que vous donnez de la voix?
Ben pour toutes ces merveilleuses personnes qui ont la gentillesse de venir me voir.
On va reparler, évidemment, de tout cela juste après une voix que vous aimez, celle de Serge Reggiani. Il suffirait de presque rien. En 1968, vous êtes sur France Inter avec Michel Bernier. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moi, pour que je te dise je t'aime. Que je te prenne par la main pour t'emmener à Saint-Germain, t'offrir un autre café crème. Mais pourquoi faire du cinéma, fillette, allons, regarde-moi et vois les rides qui nous séparent. À quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit, toi-même ferais semblant d'y croire. Vraiment, de quoi aurions-nous l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. Il suffirait de presque rien, pourtant personne, tu le sais bien, ne repasse par sa jeunesse. Ne sois pas stupide et comprends, si j'avais comme toi 20 ans, je te couvrirais de promesses. Allons bon, voilà ton sourire qui tourne à l'eau et qui chavire, je ne veux pas que tu sois triste. Imagine ta vie demain, tout à côté d'un clown en train de faire son dernier tour de piste. Vraiment, de quoi aurais-tu l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. C'est un autre que moi demain qui t'emmènera à Saint-Germain prendre le premier café crème. Il suffisait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime.
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
Vous savez, c'est le genre de personne qui vous donne instantanément l'impression que vous la connaissez depuis toujours, alors même que c'est la première fois que vous la rencontrez en chair et en os, quelque part entre la fée électricité et la mère spirituelle, pour ne pas dire supérieure, c'est une géante. L'œil camarade, le sourire prié pour nous, tout en pull en V, ce matin, la comédienne Michèle Bernier, invitée de Boomerang pour ce seul en scène qui s'appelle Vive Demain, tournée dans toute la France, un spectacle qui s'ouvre tambour battant par une chanson que chantait Jacqueline Maillan et où vous apparaissez tout en plumes et de paillettes vêtues. Quelle chanson ?
C'est pour vous, cher public adoré, que je fais cette chanson d'entrée. Parce que, en fait, moi j'avais vu le spectacle de Jacqueline Maillan, c'était un seul en scène. Et elle rentrait et elle disait ça, elle disait, comme ça vous avez le temps de me juger, de me dire si elle a grandi, grossi, si elle est coiffée comme ci ou comme ça, maquillée comme ça. Parce qu'en fait, c'est vrai que, surtout dans le One Man Show, il y a les cinq premières minutes, les gens... Vous observez et vous regardez en se disant, mais qu'est-ce que, voilà, comment il est habillé, comment c'est,
oui,
comment là.
Je me souviens notamment des entrées de Zouk, voilà, sur scène, voilà, où les gens riaient avant même qu'elle ait commencé,
exactement,
à parler.
Exactement. Et donc, ça laisse ce petit moment-là, et puis après, hop, voilà, toute l'attention est présente.
Mais elle,
voilà,
dit pas rien, cette chanson, quand même. Ouvrir cette chanson par ce texte-là, ouvrir ce spectacle par ce texte-là, c'est dédier tout votre travail au public, aux gens, tout,
oui,
simplement.
Parce que y a c'est un accueil en même temps, c'est-à-dire que les strass, les plumes, Joséphine Baker au Panthéon, hein, je veux dire, c'est quand même, c'était la reine des plumes aussi et du strass, et je pense que c'est une manière de dire, ce soir on fait du show, on se réunit, on est ensemble, on va déconner, voilà, c'est un moment de, allez, c'est du peps, c'est du champagne, on va partager ça ensemble.
Et c'est vous mettre effectivement sous un héritage, Michèle Bernier, Jacqueline Maillan, dont vous aviez d'ailleurs repris le rôle dans Folle à Mandat. Quel modèle est-ce qu'elle a été pour vous ? Est-ce qu'elle est toujours d'ailleurs ?
Mais elle est toujours, mais pour moi, ce sont les femmes qui nous ont donné, à nous les comédiennes, enfin, tout pour pouvoir rentrer dans ce monde très masculin. Autrement qu'en étant une petite jeune femme fragile et tout en soumission aux hommes virils et fort.
Qu'est-ce qu'elle avait en plus ?
Parce qu'elle avait ce truc de dire, cet humour fou, cette liberté du corps, de l'esprit. Je veux dire, c'était la reine de la pirouette. Elle faisait des trucs. Quand on regarde ses spectacles, elle avait une façon à phraser et puis une grande liberté. Jacqueline Maillan n'a jamais été une femme d'une beauté incroyable, mais elle faisait que des spectacles où elle était aimée, où elle était une femme forte, une femme qui pouvait être une manipulatrice, et cet humour ravageur, quoi.
C'est intéressant de vous entendre parler de sa technique de jeu, en fait, pour, oui, faire rire. En quoi faire rire ? C'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile dans votre métier, Michèle Bernier.
Oui, parce que je pense que c'est comme de jouer d'un instrument. Je veux dire, on peut pas prendre une guitare et faire gling, 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 comme ça, ça n'a aucun intérêt. Et je pense que quand on écrit, quand on joue, c'est un rythme, c'est un tempo. Par exemple, dans l'humour, on sait qu'il y a la règle du 1-2-3. C'est-à-dire que on commence on démarre sur un sujet, on fait le sujet, on répète, et le troisième, il faut qu'il soit différent. C'est-à-dire que c'est toujours c'est une musique, c'est un tempo, et le rythme aussi. Avec Marie-Pascal, c'est vrai que c'est ce qui nous importe le plus. Elle, en tant que metteur en scène, en plus, c'est le rythme d'un spectacle qui gagne.
On retrouve la musique de Joséphine Baker, là.
Ouais.
Et puis l'autodérision, quand même, encore une fois, le fait de savoir rire de soi. Qu'est-ce qui vous fait rire chez vous ? Alors, il faut rire.
Ah bah moi.
Pourquoi ?
Non, mais qu'est-ce qui me fait rire ? Je sais pas, c'est peut-être, j'ai une manière de... Voilà, j'aime bien les trucs un peu à côté de la plaque. Je donne des noms bizarres à des gens. Je suis un peu rigolote comme ça.
C'est votre décalage ?
Ouais, c'est mon décalage.
C'est moi ce qui me fait rire, je vais vous le dire, hein, Michèle Bernier. C'est quand vous vous endormez sur les bancs de la préfecture. Ah bah, c'est-à-dire qu'il faut nous raconter... Ça vous arrive souvent ? De faire un petit somme comme ça aux dévotés ?
Je vais rarement à la préfecture. Mais c'est vrai que, bon, après, c'est pour expliquer. Souvent, les chansons nous ont permis de pouvoir aborder des sujets sans que ça soit un peu comme ça lourd. Et on l'avait déjà utilisé ce principe-là, en tout cas dans Et pas une ride, où pour parler de la ménopause, c'était mes 50 ans, on se disait voilà, oh, c'est un sujet un peu comment l'aborder, etc. Et on avait fait le tango de la ménopause. Et donc je dansais et chantais avec un immense traversin qui donnait l'idée d'un tampon. Et la chanson s'appelait Vapeur Vapeur. Donc c'était incroyable sur scène parce que tout le monde s'amusait avec ça et que tout d'un coup c'est plus un sujet tabou. C'est un moment de rigolade.
Donc là il faut nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé.
Alors,
sur
là,
les bancs de cette préfecture.
Ce qui se passe, c'est que en fait je vais donc chercher récupérer des points pour mon permis, comme je dis. Et donc j'ai du temps et je suis en train de rêvasser et je suis un peu fatiguée parce que la veille mon fils m'a invité au concert d'un certain Aurel San et voilà.
Et vous êtes fan d'Aurel San?
J'aime beaucoup et
vous savez qu'il était à votre place à ce micro il y a quelques semaines.
Je le sens.
Ouais,
je
le sens ça, qu'il ouais. était là. C'est une présence en fait.
Oui. Et donc en fait le principe c'est que dans ce petit bout là, c'est de dire qu'à un moment on va vous appeler madame. C'est l'âge fatidique où on n'est plus mademoiselle, on n'est plus Michel, ni Geneviève, ni Marguerite, ni Françoise, on devient une madame. Bonjour madame, etc. Et que ça vous colle un coup de vieux tout d'un coup, paf. Et que la chanson d'Aurel San sur simple basique, on l'a modifiée en faisant on m'appelle pas madame. Et donc tout d'un coup j'ai une espèce de rage.
Vous pouvez pas nous lancer les trucs comme ça et pas nous montrer exactement. C'est une source d'inspiration, clairement, Aurel San, pour vous. Vous rappez comme lui. Montrez-nous, d'autant que vous êtes sur scène ce soir à l'Opéra de Saint-Étienne. Il faut vous échauffer, Michel. Ça fait comment?
Dans la rue, si on m'appelle madame, je fais exprès, je me retourne pas. Supprimer mademoiselle dans les formulaires, faut vraiment avoir une autre affaire. Merci pour la place, mais je peux encore me tenir à la barre dans le métro. Par contre, chez toi, tu dégages les chaises basses et les canapés mous. Me demander un selfie quand je suis pas maquillée à mon âge, c'est saoulant. Et me demander comment c'était de mon temps, c'est idiot, moi je vis ici et maintenant. Arrêtez avec le cholestérol, le bon médoc, c'est le rock'n'roll. La pub nous a rendu addicts aux antirides alors que la beauté, c'est le sourire. Simple, basique. On m'appelle pas madame, on m'appelle pas madame, on m'appelle pas madame.
Non mais attendez Michel, c'est extraordinaire ce qui vient de se passer sur la antenne de France Inter. Il le sait, Aurel San, ou pas?
Mais je crois, oui, je crois.
Il faut faire un featuring. J'ai appris le mot récemment avec Angèle hier. En fait, c'est fou parce que vous passez votre temps à chanter dans ce spectacle. Quelle place est-ce qu'elle a, la chanson, dans votre vie?
Toute ma vie est consacrée à la chanson. J'aime chanter, j'aime les chanteurs. J'ai été élevée beaucoup par Guy Lux et les Carpentiers chez moi quand j'étais enfant. Et c'est vrai que la variété, la chanson française, ça a pris une place folle dans ma vie.
Et Yves Montand, tiens.
Et Yves Montand.
Ah, vous me voyez venir peut-être.
Ben ouais. Ben ouais.
Pourquoi Yves Montand, que vous avez choisi? Il a chanté ce texte que vous allez nous lire, un texte écrit par le dessinateur GB pour Charlie Hebdo, un texte qui s'appelle Casse-tête. Pourquoi ce texte?
Parce que un soir, Yves Montand appelle au bureau au bureau des Trois Portes, donc à Charlie Hebdo, parce qu'il avait lu le texte de GB. C'était rare quand GB faisait des textes, c'est plutôt des dessins. Et donc Yves Montand veut parler à GB, donc GB prend Yves Montand. C'était quand même dingue à l'époque pour nous, enfin pour eux aussi. Et donc il demande à GB d'utiliser le texte pour en faire une chanson. Et un soir, Yves Montand vient au bouclage à Charlie Hebdo, rue des Trois Portes. Et je me rappelle que mon père est rentré de cette soirée, mais assez impressionné par le personnage d'Yves Montand, qui a parlé de tout, toute la soirée. Ça a été une soirée mémorable pour eux tous. Et puis Yves Montand fait l'Olympia et nous invite à l'Olympia, invite toute l'équipe. J'en ai encore des frissons de vous raconter ça. Et donc, il chantait Casse-tête à l'Olympia. Et là, c'était comme une consécration pour toute l'équipe de Charlie Hebdo, pour GB, tout ça. Et cette chanson, elle résonne pour moi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'elle est à la fois une chanson qui a un constat, c'est un texte de constat d'une société, et en même temps d'espoir. Et j'adore ce texte.
Vous êtes très émue quand vous en parlez.
Ouais, parce que ça fait partie des moments d'une vie. On est gamin, gamine. on se rend bien compte que c'est des choses écrites qui sont fortes, et puis que Yves Montand, ça représentait beaucoup de choses pour nous, Simone Signoret, tout ça. On n'imagine pas aujourd'hui ce que ces gens ont pu être dans nos vies, et des artistes.
On peut porter comme voix aussi.
Ouais, aussi. En étant, en plus, en s'étant trompé, en l'ayant même dit, en ayant été après assez rude, d'ailleurs, avec les idées qu'ils ont portées pendant quelques années. Et c'est vrai que ça reste des personnages tellement forts, quoi.
Alors on vous écoute. Casse-tête.
Ils m'ont tapé sur la tête. Je ne me rappelle plus pourquoi, ni même si ça m'a fait mal, parce que j'en suis mort. Qu'est-ce que j'étais déjà ? Travailleur immigré, philosophe, résistant caché, dissident notoire, ou bien animal à fourrure ? Je m'appelais comment déjà ? José, Abdel, Argentino, Arabica, Yann Patochka, ou bien alors bébé phoque ? Ils m'ont tapé sur la tête, je ne me rappelle plus pourquoi, ni même si ça m'a fait mal, parce que j'en suis mort. M'a-t-on assommé pour mes idées, ou pour faire de moi un manteau, pour de l'argent ou la couleur de ma peau ? J'ai un bout d'os dans la mémoire. Quand leurs pieds chaussés m'ont cerné, étais-je allongé dans des draps, ou bien couché sur la banquise ? Ou est-ce que je sortais d'un café ? Je suis mort dans la rue de l'Ouest, sur la glace du Nord ou chez les flics de l'Est, ou dans la pampa des casquettes à coups de trique noir. Est-ce que je rêve de vengeance ? De têtes policières éclatées, de têtes de chasseurs sanglantes, de têtes de racistes empurées ? Ou bien est-ce que je vois des têtes émerveillées d'elles-mêmes, émerveillées de leurs dedans et se découvrant en nouveau monde ? Je suis mort, répondez pour moi. Je m'appelais Yann Patochka, argentin, et bébé phoque arabe. Maintenant, ça me revient.
C'est un texte formidable. Merci, Michel Bernier. Merci d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Vive Demain est en tournée dans toute la France jusqu'en mars. Vous serez ce soir à Saint-Étienne. C'est pour ça que c'est sympa d'être venu ce matin quand
Oui.
Puis à Épernon, Marseille, Béziers, Nantes, Vierzon, j'en passe sans oublier Paris, salle Pleyel, les 11 et 12 mars. Tout de suite, c'est l'heure des médias avec Sonia De Villers qui reçoit quand même Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo,
oui,
notamment.
Comme quoi, hein.
Donc c'est formidable
c'est
de
formidable.
Vous avoir entendu lire ça. C'est juste après ça.
I'm working on dying.
Said you belong to the streets, but the streets belong to me. It's like home to me. It's like home to me. I tatted your passport up. Now it's looking like a long sleeve. Just know that was all me.
And when you see Chanel, I wish that's how you saw me. That shit you tell Chanel, I wish that's how you call me. That raw shit, that honesty, yeah. You know I love you more than all them niggas put together. And it's a lot of niggas trust, I put the list together. And it's a lot just to assume we're meant to be together. You gotta live that shit for real, you can't just say whatever. You can never tell nobody that you held me down. If it was ride or die, then you should have been there right now.
So I don't care how you're yelling at me.
How much I gotta spend for you to pipe down? How deep I gotta dig for you to pipe down? All the things I've done up until right now. I need 1,000 pages just to write it down. Writing down these feelings, it's been overdue. Don't know how many pens it's gonna take to get over you. How much I gotta pen for you to pipe down? How deep I gotta dig for you to pipe down?
Tried to run it back 100 times. The world is yours, but the city's mine. Can't believe you put it on your mother's life. I can't believe you told me it was ride or die. Cause you're not here somehow, you're still alive. True enough, I knew you from the other side. I set my expectations way too high.
Yeah. And I would listen to the lies that you would tell all night. Angel eyes, but you've been giving me hell all night. I know the book that you would write is a tell some, not a tell all. Just to make sure you well off, you would sell all rights. Why does your ex think we beefing? Is that man all right? That nigga can't even look at me, he fell off twice. And I'm back popping. I still remember the day I saw you. I was on your ass like back pockets. Niggas love to hate, but what is that stopping? So much shit I wanted to say, straight to your face. But you're so two-faced that I don't know which face. You're the reason we'll be going separate ways. You're the reason we cannot communicate. It's not the things you say, it's what you don't say. I'm not in your way, in your own way.
So I don't care how you're yelling at me.
How much I gotta spend for you to pipe down? How deep I gotta dig for you to pipe down?
All the things I've done up until right now. I need 1,000 pages just to write it down. Writing down these feelings, it's been overdue. Don't know how many pens it's gonna take to get over you. How much I got a pen for you to pipe down. How deep I gotta dig for you to pipe down.
Ce titre, Pipe Down, de Drake.